France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Tisser le lien et tisser le lin. Une histoire cousue de fil blanc. Et pourquoi pas une histoire du bonheur. C'est un peu ce que nous propose Hans Christian Andersen dans un conte publié en 1848 et sobrement intitulé « Le lin ». D'une plante aux jolies petites fleurs bleues jusqu'à la toile et à l'étoffe, Andersen joue de la métaphore textile pour nous conduire au bonheur si fragile, celui qui accompagne les différents moments de notre vie.
Le lin était un fleur. Il a de délicieuses fleurs bleues, douces comme les ailes d'une mythe, et bien plus menues encore. Le soleil brillait sur le lin et les nuages l'arrosaient, ce qui était pour lui aussi bon que pour les petits-enfants, le bain suivi d'un baiser de leur mère. Ils en deviennent plus charmants et il en est de même du lin. « Les gens disent que je me tiens admirablement droit, dit le lin, et que je vais être d'une belle longueur. Je fournirai un superbe morceau de toile. Oh, comme je suis heureux! Je suis certainement ce qu'il y a de plus heureux. Je me tiens droit et on fera quelque chose de moi. Comme ce soleil est gai, comme cette pluie fait du bien, mon bonheur est parfait, je suis ce qu'il y a de plus heureux. » Mais un jour vint où l'on saisit le lin par le haut des tiges et on l'arracha, racines comprises, et ce fut douloureux. Puis il fut mis dans l'eau comme pour être noyé et ensuite sur le feu comme pour être cuit, c'était affreux.
Le lin, présenté par Andersen dans son conte de 1848. Ce n'est que le début, je vous promets en fin d'émission, la fin de ce conte avec un peu ce qu'il comporte de morale. Nadège Goffre-Fayolle, bonjour.
Bonjour, Xavier Mauduit.
Lin, trois lettres, L-I-N. Enfin bon, une fois qu'on a dit ça, on ne sait plus trop quoi on parle. À l'origine, c'est quoi le lin? C'est une plante, c'est ça?
Oui, c'est une plante qui pousse dans des terres assez humides, qui a été cultivée depuis plusieurs millénaires et pour ses capacités à nourrir, à faire de l'huile, et aussi pour ses capacités à faire du textile avec sa filasse. Une filasse qui a la capacité d'être blanche assez naturellement pour les lins des meilleures qualités.
Et parce qu'on associe souvent cette couleur-là au lin, mais bien sûr, comme tous les textiles, il peut être teint, j'imagine.
Oui, bien sûr, le lin peut être teint. Alors, on a toujours cette impression que le lin est teint difficilement, parce qu'effectivement, il faut employer des techniques beaucoup plus complexes que pour teindre la laine, mais il se teint. Mais on a quand même toujours, depuis les textes de la Bible notamment, un lin blanc, parce que c'est un lin qui va signifier aussi la pureté. C'est un lin qui vient de la terre, comme Adam est venu de la terre, alors que les autres textiles vont venir d'animaux, comme la soie, comme la laine, et ils peuvent être considérés comme plus impurs.
Et oui, c'est ça, hein, c'est cette idée de pureté associée à la couleur blanche. Nadège Goffre-Fayolle, vous êtes historienne spécialiste du fait vestimentaire au Moyen-Âge particulièrement, et vous nous le dites bien, c'est sur ce temps long qu'il faut comprendre le lin, bien sûr, déjà utilisé sous l'Antiquité, cette fibre végétale, on a toujours du mal à imaginer hein, comment une fibre végétale va donner cela, parce que pour le coton, on voit, le coton c'est tout doux, c'est tout en haut, c'est toute une petite boule. Le lin, ça se trouve où dans cette plante? Enfin, la fibre elle-même, elle est où?
Alors la fibre, elle est cachée, effectivement, quand vous voyez un champ de lin, vous ne voyez pas la fibre qui va devenir la fibre textile. Elle doit subir un certain nombre de techniques et un travail assez intense qui est assez long. Tout d'abord, on la coupe et ensuite on va la faire tremper dans l'eau, c'est le rouissage. À ce moment-là, donc c'est assez long quand même, au moins 15 à 3 semaines, pour décoller la gomme qui va tenir la fibre bois à la filasse. Donc ça, c'est quand même des techniques qui sont assez polluantes, qu'on peut faire soit en eau courante, soit en eau de piscine, soit sur les champs en arrosant et en retournant le lin une fois coupé. Ensuite, il faut extraire cette filasse qui fait la préciosité du textile. Donc on va avoir une étape qui va être de casser cette fibre de bois. Donc ça sera le maquage, où on va effectivement là en quelque sorte broyer la fibre. C'est très physique, c'est le travail des hommes le plus souvent. Au Moyen-Âge, ils utilisent un outil, la maque, qui est un long manche recourbé avec une espèce de... de blocs de bois gaufrés, comme l'intérieur d'un moule à gaufres. Et donc on va frapper. Et là, on va séparer la fibre bois de la fibre textile. Quand ce sont les femmes qui s'occupent de cette activité, elles vont utiliser d'autres outils. Donc là, on va avoir un outil qui sera plutôt comme un établi avec une barre de bois qui va broyer, comme on peut imaginer un massicot actuel, mais qui ne va pas couper parce qu'il faut qu'on garde cette fibre longue. Et ensuite, on va avoir le taillage qui va laver, qui va vraiment nettoyer cette fibre. Et puis ensuite, elle va pouvoir être peignée, dans le cas des fibres longues de meilleure qualité, ou cardée pour les fibres plus courtes. Et là, va intervenir le filage avant le tissage.
On a tous vocabulaire spécifique et qui est très beau, hein. Rouissage, séchage, je pense qu'on peut l'utiliser ailleurs, hein. Taillage, cardage, peignage. Ce vocabulaire-là, c'est le vocabulaire de toute une histoire technique aussi, on l'entend déjà, une histoire genrée dans ce que vous nous dites. Cette histoire, c'est celle d'une fibre particulière, le lin cultivé, c'est la plante, et puis après, quand on parle du lin, ça devient la matière, c'est un peu comme
oui,
ça.
Oui, c'est la matière première, oui.
Voilà, la matière première. Et pour nous en parler dans le cours de l'histoire aujourd'hui, Soizic Villermu, bonjour.
Bonjour, Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Limoges. Déjà, que l'on ne se trompe pas, en se baladant dans la campagne, comment on peut reconnaître un champ de lin cultivé ?
Il est bleu.
Voilà, c'est ça, c'est la couleur avant tout.
Voilà, c'est un champ bleu. C'est ce que les Bretons appelaient l'or bleu, en fait.
Ah oui, parce que la Bretagne est associée de manière très intime à cette histoire-là. La question se pose, où peut-on cultiver le lin ? Ce que nous disait Nadège Gaufre-Fayol, c'était dans des milieux humides. Le lin, c'est une plante résistante ?
C'est une plante résistante, effectivement, et qui n'est pas cultivée partout. Alors, vous l'associez à la Bretagne. D'abord, elle ne pousse pas qu'en Bretagne, évidemment. Et puis surtout, elle ne pousse pas partout en Bretagne. Toute la Bretagne n'est pas linéaire. La Bretagne linéaire correspond peu ou prou à la Bretagne qui est actuellement celle du légume, hein, dans le Léon ou le Trégor et le Goëlo, quoi, globalement. Et un petit peu autour de Rennes.
Voilà, c'est ça. C'est pas toute la Bretagne avec ce lin en Bretagne. J'en parle, hein, parce que Soizic Villermu, vous êtes en train de préparer tout un travail sur le lin, la Bretagne. C'est une longue histoire qui nous conduit évidemment un peu partout en France et pas seulement en France. Et donc, petit tour en Bretagne.
Le lin a fait, il n'y a pas encore si longtemps, la prospérité du Trégor. On en cultivait dans toutes les fermes et l'on a compté jusque 130 taillages en Bretagne.
Alors, monsieur Lebaille, le travail du lin, ça vous intéresse, je suppose ? Et depuis longtemps ? 25 ans que vous êtes sur le métier ?
Sur du métier, pas toujours ici, pas toujours sur ce métier-là, mais ça fait 25 ans que je tisse.
Ouais. Et pourquoi ça vous intéresse à ce moment-là ?
Le lin est une matière qui est, d'abord, elle est difficile à travailler, il y a donc une certaine difficulté à vaincre, puis c'est sympathique, dans la fibre, et puis dans le résultat.
Vous pouvez faire beaucoup de choses, je suppose, en lin ?
Actuellement, on tisse surtout du linge de table, c'est le lin. On ne fait plus de vêtements. Autrefois, on faisait des vêtements. Tout était en lin, les draps, les chemises. Aujourd'hui, on fait surtout du linge de table.
Oui. Le lin, ça a été quelque chose de très important dans le passé, et même encore d'une certaine mesure aujourd'hui.
Ah, dans le passé, c'était une chose considérable. Ça touchait la culture, ça touchait l'artisanat, ça touchait le commerce, ça touchait la marine. Toutes les voiles des bateaux étaient en lin. Et quand on pense à nombre de bateaux que nous avions en Bretagne, ça représente un nombre considérable de toiles.
Le lin dans le Trégor, nous étions en 1978, avec ici cette complexité pour obtenir une toile. On voit bien toutes ces étapes, demande un grand savoir, Nadège Gaufre-Fayol. Cette histoire du lin, c'est une histoire des techniques, c'est une histoire qui nous conduit, ici on entend quelqu'un qui file chez lui, qui nous conduit au plus près des gens. Est-ce que l'agriculteur, la personne qui cultive son champ de lin cultivé, est la personne qui va filer ? Comment s'organise cette économie-là ?
Alors, c'est très compartimenté. Moi, ce que j'ai pu, les études que j'ai pu faire, elles arrivent en bout de course, je dirais, parce que mes comptabilités, c'est le moment où on achète cette fibre. Mais avant, donc il y a l'agriculteur, le lin est vendu, et ensuite on a tous des métiers très très structurés qui vont à chaque étape être spécialisés. Donc comme comme je disais tout à l'heure, ben, on a ce traitement de la fibre. Mais ensuite, on a donc les fileurs fileuses, les cardeurs cardeuses. Et puis ensuite, ça va passer dans des ateliers de tisserands. Alors, les ateliers de tisserands médiévaux sont encore assez méconnus parce que la recherche sur le lin médiéval est vraiment ses balbutiements. Donc, c'est vraiment à travers d'autres sources et notamment au moment où ces toiles sont vendues qu'on peut avoir une idée de ce qui faisait la qualité, de ce qui faisait la renommée du lin. Et ensuite, on passe à une autre étape, à la confection. Et là aussi, on a des métiers spécialisés, notamment les couturières en lin. Début du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, on les appellera plutôt les lingères. Et on aura aussi des hommes qui vont pratiquer ces activités, mais de façon minoritaire.
Oui, voilà, c'est pas... Tout dans la ferme.
Non, hein, loin
de
là.
On va trouver une production, ça veut dire qu'il y a des déplacements, ça veut dire qu'il y a
voyage.
Il voyage beaucoup. Et dès lors, la question des sources se pose, et vous nous le dites bien, ce sont des sources comptables, surtout qui sont au plus près de cette production, au sens où c'est des sources liées au terrain cultivé, des sources d'achat. C'est ce qu'on va retrouver ici, vous travaillez à partir de cela?
Alors moi, je travaille bien en aval de la production. Et je travaille au moment où les cours princières, parce que c'est mon sujet d'étude, vont dans les magasins, dans les ouvroirs, pour choisir les lins qu'ils vont utiliser en fonction des usages des différents vêtements. En amont, c'est plus difficile pour la période médiévale. Toutefois, je pense que Soisic aura beaucoup plus d'informations que moi, parce qu'elle a des sources très différentes.
Ben voilà, le fil est tendu. Soisic Villerbu.
Oui, alors effectivement, les sources sont beaucoup plus abondantes pour les périodes modernes et contemporaines, et elles permettent de mettre au jour un système qui est effectivement global, qui est un système très complexe, mais qui se pense vraiment à l'échelle globale. Le lin breton n'est pas une histoire régionale, c'est vraiment une histoire mondiale. Et ça part de la graine, en fait. Le lin que l'on cultive en Bretagne vient en fait de la Baltique ou de la Zélande. Les graines sont importées des ports de la Baltique, hein, de Saint-Pétersbourg, de Riga par exemple, ou de Amsterdam et Rotterdam, et on a un flux comme ça de graines qui amène les graines à Roscoff. De Roscoff, elles sont redistribuées sur tous les ports du littoral, hein, Tréguier, Paimpol, etc. Et les paysans après achètent ces graines, donc on a un premier système marchand, hein. Les paysans achètent ces graines et les cultivent. Et après, comme le disait très bien Nadège, il y a un système paysan, hein, où il y a cette étape du rouissage, hein, dans les routoirs. Il y en a encore énormément en Trégor et en Goëlo, hein, de ces routoirs. Et ce lin est donc roui, il est taillé, et après il est envoyé à des tisseurs. Et après on a un autre système marchand, hein, qui l'exporte également à l'échelle mondiale, parce que le lin breton est essentiellement un produit d'exportation à l'époque moderne. Les craies du Léon vont d'abord en Angleterre, puis en Amérique, dans les colonies espagnoles. Et ce qu'on appelle les toiles Bretagne, qui sont produites au sud de Saint-Brieuc, qui sont le principal produit de ce système d'exportation, sont des produits qui sont avant tout destinés à l'Amérique espagnole et aux Antilles françaises. Et ça va aussi par un autre produit qui est moins connu, qui est le fil, ce qu'on appelle le fil de Rennes, qui est un fil teint pour le coup, un fil de lin teint, qui est également un produit d'exportation qui part en Amérique espagnole. Et comme il est teint avec des produits tinctorieux qui viennent même d'Amérique, on a un vrai produit global avec ce lin qui est assez extraordinaire.
Et voilà, mais on le sait bien, quand on est en Bretagne, on est au contact avec le monde entier.
La tradition se meurt, pourtant, dans une Bretagne en pleine évolution, le tissage a retrouvé une nouvelle jeunesse, et notamment en trois points que nous allons visiter pour vous. Dinan, le saviez-vous, a possédé 800 métiers. Là aussi, on tissait la toile à voile pour Saint-Malo et Nantes, 300 000 mètres par an. C'était l'époque où la Bretagne fournissait de la toile à l'Égypte, à la Martinique, à Saint-Domingue, à la Guadeloupe. À Tréguier, ancienne cité épiscopale de Saint-Yves, qui a gardé une physionomie paisible, discrète et d'un charme apaisant, c'est dans une vieille maison du XVIIe siècle que s'est installé un jeune ménage de tisserands. Ils ont décidé de reprendre le flambeau et, au souffle court du métier, chaque jour ils tissent ces trésors qui feront demain la joie des belles. Mais dans cette compétition de la toile bretonne, Locronan vient en tête. Locronan, ou pays de Ronan, qui s'édifia peu à peu autour du tombeau de l'ermite chassé d'Irlande au 5e siècle et installé dans ce coin d'Armorique où il aborda. Locronan devient au 17e siècle une très fière et très riche cité marchande.
Les actualités bretonnes en 1965. Sozic Villerbu, on vous connaît comme spécialiste de l'histoire de l'Ouest, nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Très bien. Mais comment en arrive-t-on au lin? C'est peut-être par ces questions d'exportation?
Oui, oui, oui. Et là, ça permet de rebondir sur ce que disait Nadège en termes de sources. En fait, moi, je suis tombé dans l'Ouest, hein, dans la vallée du Mississippi et encore plus à l'Ouest, sur des comptabilités marchandes. Et je me suis rendu compte que chez ces marchands-là, on vendait sans arrêt des craies du Léon, des toiles Bretagne, du fil de Rennes. Et on en vend dans la vallée du Mississippi, on en vend au Mexique, on en vend à Saint-Domingue, j'en ai trouvé à New York, j'en ai trouvé au Canada. Les populations amérindiennes, on utilise. Et c'est ça qui m'a amené effectivement à un retour finalement chez moi, j'allais dire, sur les produits de lin breton, effectivement, où les sources abondent, voire surabondent. Là, je n'ai pas le problème que peuvent avoir mes collègues en médiéval. Il y a une surabondance de sources qui permet de traiter l'ensemble de la filière, hein, des graines de la Baltique jusqu'au consommateur américain, effectivement.
Nadège Goffre-Fayol, sans qu'il y ait tant de sources, en tout cas pas autant qu'en contemporaine, sur la période médiévale, vous avez suffisamment d'éléments pour saisir ce transport du lin. C'est-à-dire que le lin n'est pas produit, fabriqué, transformé et utilisé dans la même région. Ça voyage beaucoup.
Oui, ça voyage beaucoup et surtout les lins de très haute qualité. Alors moi, je n'ai jamais trouvé de lin de Bretagne.
Non, c'est la Normandie beaucoup, le lin quand même. Il faut le dire parce qu'on parle de la Bretagne. Mais enfin, les champs bleus, faut aller faire un petit tour du côté de la Normandie, on est bien d'accord.
Mais on a d'autres régions françaises qui sont productrices de lin, qui vont vraiment s'exporter à cette époque. Notamment la région de Reims, qui est une production qui est assez ancienne, déjà au 11e, 12e siècle, on a des citations de cette provenance qui va s'exporter au Moyen-Orient, en Orient, sur tout le pourtour de la Méditerranée. On a aussi, donc plus largement, on parle de toiles de Reims, mais c'est vraiment la région de la Champagne. On a des toiles de Paris, donc aussi, qui vont s'exporter. On va en trouver dans tous les achats qui vont être faits pour les cours européennes de la fin du Moyen-Âge. En Angleterre, au Danemark, on retrouve toutes ces provenances qui deviennent des labels finalement. On va avoir des toiles d'Allemagne, des toiles qu'on appelle les toiles de Constance, qui sont aussi une production ancienne, mais qui vont monter en gamme. Donc elles vont vraiment apparaître dans les comptabilités princières aux alentours de la fin du XIVe siècle. Et puis elles vont concurrencer les toiles de Reims, les toiles de Paris. Et puis on va avoir une production dans le Hainaut. Production du Nord, qui est beaucoup moins ancienne, mais qui va aussi monter en gamme et qui va se mettre au XVe siècle à devenir bien majoritaire. Et les toiles de Champagne vont perdre vraiment de leur intérêt. Il va encore en avoir, mais vraiment d'une qualité exceptionnelle. Mais le panel, en fait, va vraiment diminuer. Donc sur la fin du Moyen-Âge, on va voir toutes ces régions finalement se concurrencer, augmenter leur technique, augmenter leur qualité pour pouvoir avoir un marché de luxe. Mais il est évident qu'il y a partout où on produit du lin, il y a une production locale.
Oui, c'est ça.
Mais qui ne va pas forcément circuler à l'international. Là, ce qui circule, ce qu'on peut percevoir au Moyen-Âge, c'est le luxe qui circule.
Avec l'idée de qualité, toile de Reims, toile de Troyes, toutes ces toiles, qu'est-ce qui fait la différence de qualité? C'est la plante cultivée, c'est la manière de cultiver, c'est la densité de fil utilisé?
Alors là, effectivement, les trois vont être vraiment au centre. Tout d'abord, faut un lin de qualité. On a à peu près trois qualités de lin qui vont faire du textile. Vernaculairement, on appelle ça le lin froid, le lin blanc, qui va être un lin qui va pousser dans des régions humides, qui va être très très long. La filasse va être longue, donc on va pouvoir la peigner et faire des fils très très fins. On a un lin moyen de seconde classe qu'on appelle le lin gris. Donc tout de suite, il va être moins blanc. Donc tout de suite moins couru. Et puis on va avoir le lin têtard. C'est un lin qui va pousser dans des régions qui sont moins humides, donc il va être plus adapté à des régions chaudes, mais la qualité va être moindre, donc des fils qui pourront être beaucoup moins fins. Donc déjà, on a la plante. Pour faire une qualité de lin, il faut la plante. Ensuite, il faut arriver à la filer de façon correcte. Il faut une dextérité. Donc il va falloir des ouvriers, des ouvrières très qualifiées pour obtenir des fils fins. Et à ce moment-là, effectivement, on va avoir la réduction en fil, en trame et en chaîne, c'est-à-dire la densité de fil au centimètre, qui va être plus importante, qui va faire la qualité. Et on peut actuellement définir une qualité de Reims, on n'est pas capable de la définir actuellement, à quoi elle ressemble exactement, c'est pas possible. Toutefois, avec certains échantillons qui nous restent, qui ont pu être trouvés soit en fouille, soit en contexte funéraire, soit sur des vêtements qui sont encore conservés, il reste quelques vêtements conservés du XIIIe siècle et XIVe siècle, on peut se rendre compte déjà des différentes structures du lin. Pour donner trois exemples de trois qualités, il y a eu une découverte très intéressante en 2008 au château d'Innsbruck en Autriche. Dans un plancher, on a mis des vêtements usagés comme isolant.
Ah, oui.
Et le lin s'est extrêmement bien conservé parce qu'on était dans une situation très sèche. Par contre, toute la laine de ces vêtements s'est complètement délitée, il reste quelques fils. Donc là, on a pu analyser ces lins. Donc on a des sous-vêtements, on a des doublures de vêtements, on a des petits bonnets en lin. On a donc une réduction en trame, généralement entre 8 et 12 fils. Quand on passe sur des vêtements qui auraient appartenu à l'aristocratie, notamment des reliques comme la chemise dite de Saint-Louis ou le hoqueton dit d'Isabelle de France, on va arriver sur des réductions en trame de 28-29 fils. Donc là, on augmente la qualité. Et il existe des fragments qu'on trouve, par exemple, il y en a un très très beau à Rouen qui enveloppe le cœur de Richard Cœur de Lion. Et là, on a une réduction de 50 fils par centimètre. Donc là, on est vraiment sur une qualité absolument exceptionnelle. Par contre, le relier à une appellation, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Parce qu'on a très peu de règlements de métier qui concernent le lin. On en a beaucoup qui concernent la laine. On va avoir tous les aspects techniques qui vont être évoqués dans cette réglementation parce qu'on va donner un label et ils vont avoir une bulle qui vont dire ce drap peut être vendu sous le label de drap de Bruxelles pour la laine. Pour le lin, on n'est pas encore arrivé à ce degré de recherche et de connaissance.
Mais la recherche progresse toujours, donc peu à peu, on y arrivera. Soisic Villerbu, vous aussi, vous avez cette qualité-là qui explique les exportations. Vous nous avez parlé du fil de Rennes, parce que le lin tissé, ça devient des toiles. Alors, des toiles pour de multiples usages, et on y reviendra. Mais ça peut être vendu aussi sous forme de fil.
Oui, alors je voudrais d'abord revenir sur cette histoire de qualité. Effectivement, le lin a des qualités extrêmement variables et les toiles bretonnes sont surtout connues pour leur qualité. C'est pour ça qu'elles s'exportent, mais évidemment, elles sont pas seules. Hein, et d'ailleurs, même en Amérique espagnole, elles vont être très fortement concurrencées par des toiles allemandes qu'on appelle des Silésies, qui viennent donc de Silésie, comme leur nom l'indique, et qui seront vendues moins chères. Et ce sera en partie cette concurrence des Silésies qui va amener la chute de la production de toiles bretonnes. De toile à chemise notamment, à partir de la fin du 18e. Pour ce qui est, et je reviendrai là-dessus éventuellement, pour ce qui est du fil de Rennes, effectivement, c'est une histoire intéressante parce que c'est une histoire oubliée. Et à Rennes, aujourd'hui, il n'y a aucune mise en valeur de ça. Tout le monde a oublié cette histoire de fil de Rennes, alors que quand on regarde les sources, tout le monde est au clair pour dire que c'est la première industrie rennaise, à l'époque moderne, au 17e, 18e. Il n'y a plus de teinturier à Rennes de fil dans les années 1840-1850, mais c'est la première industrie rennaise qui fait vivre des centaines de personnes à Rennes, des teinturiers. Et effectivement, c'est un produit étonnant. Et là, on retrouve un peu les problématiques de Nadège, c'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé de fil de Rennes, tout simplement parce que le fil de Rennes, c'est du fil à coudre ou du fil qui sert à la bonneterie ou à la passementerie. Donc, il est intégré dans d'autres produits et il est impossible de savoir quand on retrouve un objet de passementerie ou un vêtement si c'est cousu avec du fil de Rennes ou pas. Donc, je n'ai jamais vu de fil de Rennes, mais il est effectivement connu à l'échelle, j'allais dire mondiale. Bon. Au moins atlantique, parce qu'il est énormément vendu en Amérique. Et contrairement aux toiles, on le vend aussi en France, parce que les toiles bretonnes, on ne les vend pas en France. En France, on trouve des toiles de tas d'autres régions françaises, y compris très proches de la Bretagne, les toiles de Laval, par exemple, qui se vendent partout en France. Par contre, le fil de Rennes se vend aussi en France. C'est un fil qui a la particularité d'être soit blanchi, soit teint. Et de teint de toutes les couleurs, on en trouve du bleu, du jaune, du rouge, etc. Et donc pour lesquels on utilise des bois tinctoriaux qui viennent du Mexique ou de Saint-Domingue. Et on a là également une filière lin extrêmement fameuse. Alors évidemment, les quantités de fil n'ont rien à voir avec les quantités de toile, mais on a quand même une ville entière qui en vit et des micro-régions qui en vivent. Hein. Le nord du Goëlo, par exemple, s'est spécialisé dans la production de fil pour Rennes, en fait. Donc on a une filière assez étonnante comme ça, qui s'est constituée, mais qui s'est effondrée au tout début du 19e siècle, comme une partie du lin. D'ailleurs, d'étoile, les extraits que vous avez passés, là, les deux extraits audio que vous avez passés, sont intéressants parce que ils représentent en fait la dernière période de cette histoire d'étoile bretonne, notamment, et qui est une période assez étonnante, enfin, assez exceptionnelle, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passait avant, en fait. Hein. C'est-à-dire que on a là, effectivement, une espèce de micro-industrialisation qui s'est mise en place autour de moulins à théier, notamment dans le Trégor, comme on l'a entendu tout à l'heure. Mais on n'est plus du tout dans le système global qui était là avant, à l'époque moderne et jusqu'au tout début du 19e. C'est-à-dire que ces toiles-là ne sont plus des toiles qui servent à faire des vêtements et ne sont plus des toiles d'exportation vers l'Amérique espagnole qui n'existe plus. Et le Mexique, indépendant, a arrêté en fait d'importer des toiles bretonnes pour privilégier les toiles allemandes ou anglaises. En fait. Voilà. Donc on était sur une phase extrêmement étonnante, ce dernier siècle en fait du lin breton.
Soisic Villerbu, on peut préciser que le lin ne disparaît pas de manière complète parce que il y a d'autres utilisations du lin et notamment pour la fabrication d'huile. C'est pas la même chose, hein, qu'on n'aille pas tout confondre.
Oui, oui, bah effectivement, il y a le lin est aussi une plante oléagineuse. Et il y a un autre usage du lin possible. Et d'ailleurs, l'industrie de la toile s'est effondrée, ce sont des questions qui ont été posées. Bah, est-ce qu'on garde le lin pour en faire de l'huile ou est-ce qu'on arrête le lin directement?
Voilà, c'est ça. Parce que c'est cette histoire du lin que nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Le lin, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, avec cette utilisation multiple de cette toile. Alors c'est compliqué, hein, Nadège Goff-Ayol. Moi, je retiens de ce que vous m'avez dit, qu'il y a une production locale qui va servir sans doute aux gens pour s'habiller, mais de manière la plus utile possible. Et puis une production de luxe qui, elle, peut être exportée. Mais il y a ces deux productions dans le même temps.
Oui, tout à fait.
Toujours.
Oui. Toujours. Une production... Donc cette production, en fait, du commun, finalement, on a beaucoup de mal à la définir, parce que si on travaille, par exemple, sur les inventaires après décès de villes, où on aura des personnes urbaines, des personnes de la campagne, déjà, on a souvent du mal à savoir si c'est du lin ou si c'est du chanvre, parce qu'on nous parle de toile. La toile, c'est la fibre végétale. Donc, souvent, on a ce problème aussi d'identification. Donc, quand on est dans des strates supérieures, on va assimiler la toile au lin par le prix, parce qu'on a souvent, enfin, dès qu'il y a un achat, il y a un prix. Donc, on va pouvoir classer les toiles avec les différents prix. C'est à ce niveau-là, on a toujours un problème pour le commun. On a beaucoup plus d'indications quand il s'agit du luxe.
Oui, avec cette idée que ça pourrait être du chanvre, éventuellement, quand on dit toile, mais que le chanvre, oui, ça coûte beaucoup moins cher,
oui,
que le lin.
Oui, c'est un tiers du prix, voire moins. Donc, souvent, quand on a un ensemble de toiles achetées pour refaire les coffres des nappes d'un prince, on va avoir du chanvre. Et parfois, on l'a, notamment à la cour de Bourgogne, il y a une mention qui est très claire, où la table du duc de Bourgogne, on va acheter des toiles de lin de Reims, et puis on aura la mention de toile de chanvre. On ne sait pas d'où elle vient. Donc justement, en fait, moins la qualité est au rendez-vous, moins on se soucie de noter finalement les détails. Il y a aussi ce biais de la notation du scribe, du comptable et des personnes qui s'occupent en fait de tous les papiers administratifs d'une cour.
Le chanvre, pourquoi c'est de moins bonne qualité? Ça gratte?
Non, ça gratte pas. On peut faire de très bons chanvres, mais c'est beaucoup plus gros.
D'accord.
En fait, on peut pas faire des toiles extrêmement fines en chanvre.
Oui, c'est ça. Donc l'idée de finesse, de fil très fin qui permet de tresser comme ça, de tresser de manière très fine, d'où ce fil qu'on a à Rennes, Soisic Villerbu. Cette idée-là de commerce, ça motive aussi la production. C'est pas du tout la même chose de produire pour vendre près de chez soi, de façon à produire, et peut-être même pour soi-même, certains vêtements, et puis pour produire vers l'extérieur. C'est ce jeu, en fait, constant de va-et-vient entre l'utilité du tissu et puis l'argent qu'il peut rapporter qui nous permet de comprendre l'histoire du lin.
Oui, et pour revenir sur ce que disait Nadège, et ça a un lien, l'avantage pour l'époque moderne, notamment pour le XVIIIe siècle, c'est qu'on a des échantillons, en fait, très précis. Et là, les historiens et les historiennes disent merci à Colbert, qui a créé l'inspection des manufactures et ce grand système administratif qui faisait que la production d'étoffes était réglée, il y avait des règlements très précis. Il y en a eu un grand ensemble de règlements en 1736 et puis un autre en 1780 qui donnait des règles très précise pour la production de ces toiles et ces toiles devaient être tamponnées. Enfin, il y avait un tampon sur chaque toile attribué donc au bureau de marque. Il y avait des bureaux de marque dans lesquels il y avait des fonctionnaires d'une certaine manière qui tamponnaient les toiles et des inspecteurs des manufactures qui, de manière régulière, allaient inspecter tout ça. Et quand ils inspectaient, la plupart du temps, enfin très souvent, ils remplissaient des grands tableaux d'échantillons. Et du coup, c'est très pratique pour le XVIIIe siècle parce qu'on a des échantillons de chacune des toiles avec leur nom, leur zone de production, la date à laquelle ça a été récolté. Alors, ça vaut pour les toiles, mais ça vaut aussi pour toutes les indiennes de coton, ça vaut pour la laine. Enfin, pour toutes les étoffes de France, on a des échantillons comme ça pour le XVIIIe siècle qui sont soit aux archives nationales, soit dans les archives départementales puisque les inspections sont à l'échelle des intendances notamment. Et donc on peut retrouver et jauger effectivement de la qualité très variable des toiles, parce que même en lin, on peut faire des toiles de qualité très médiocre, hein, mais qui sont effectivement à destination d'un marché très local. Même dans le Trégor, pour lequel on produit effectivement des toiles de très bonne qualité, enfin le lin pour les toiles de très bonne qualité, on fait aussi des toiles de qualité très médiocre pour la production locale. Mais ça, on peut en faire à peu près partout, y compris, enfin je veux dire surtout en chanvre, partout en France, en Europe, n'importe quel paysan peut avoir une chenevière sur laquelle il cultive son chanvre, avec laquelle il va faire ses propres vêtements. Donc on est effectivement sur deux marchés très différents. Il y a un marché international, un marché local et un marché national.
Et puis avec, parmi les sources, ces pièces de tissu qui restent. Alors, tissu de prestige, on l'a dit, la chemise de Saint-Louis conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le hoqueton d'Isabelle de France, et puis plus près de nous, on l'entendait, hein, Soazic Villerbu nous parlait, aux archives, on va trouver plein de choses, mais encore plus près de nous, souvent, il suffit d'ouvrir les armoires de famille.
Nous avons vu Madame Laurette ouvrir une fois sous nos yeux l'armoire à linge. Nous n'avons pas pu l'oublier. C'est la première fois que nous voyons une armoire ouverte sur tant de blancheur, de piles ordonnées. La première fois que dans une bouffée de lavande, l'odeur de la toile, du linge bien traité, nous venait au visage. Tout était blanc, d'une blancheur immaculée, d'une blancheur de linge séché dans le pré. Madame Laurette prit une taie, la regarda. C'était un linge de lin très fin qui s'ouvrit en gardant une élégante mollesse, et répandit dans l'air comme le souffle d'un autre temps. Puis elle la replia, la mit sur son bras, referma l'armoire lentement, serra de nouveau ses clés et revint vers son amie. « Voilà, lui dit-elle, je t'ai choisi une taie qui me vient de ma mère. Elle est fine et te paraîtra très fraîche. Je te promets qu'avec cette taie, tu n'auras plus ta migraine demain. » Elle avait pris le linge devant elle, et ses mains paraissaient jaunes sur le grain qui illuminait la lumière d'un printemps.
Évocation radiophonique d'une armoire de famille en 1950. Nadège Goffo-Fayol, quels sont les usages du lin? Vous allez me dire un peu pour tout. Non, mais au Moyen-Âge, ça sert à quoi le lin?
Alors déjà, pour le Moyen-Âge, on ouvre les coffres, on n'ouvre pas les armoires.
C'est vrai, il n'y a pas d'armoire,
voilà.
Ce sont des coffres.
Donc c'est des coffres dont sont serrés ce linge de corps, ce linge d'hygiène, ce linge de table serré avec de la lavande. Et surtout, pour qu'il ne soit pas plein de vermine, on les met aussi en sac. Donc c'est tout ça bien serré dans des coffres. On a différentes utilisations. On en a pour la doublure de vêtements, notamment en été, on ne va pas doubler les vêtements en soie, on va les doubler en lin, des lins teints, souvent, le plus souvent. On a aussi tout l'aspect des vêtements matelassés. Alors, c'est le pourpoint, les hoquetons qu'on va trouver au départ sous les armures pour protéger le corps, en fait, de la rudesse de l'armure, mais qui vont passer dans le vêtement civil. Donc, ce sont des vêtements matelassés comme on pourrait voir nos doudounes actuelles, c'est-à-dire qu'on a deux étoffes, voire plus, avec une bourre de soie, une bourre de coton au centre, et en fait, les deux lins vont enserrer et être surpiqués. C'est le principe de la couverture piquée qu'on appelle courte pointe au Moyen-Âge. Donc ça, c'est les aspects d'un vêtement civil, d'un vêtement qui est vu. Alors, le lin est à l'intérieur. On va avoir les sous-vêtements, et là, ça va être vraiment la partie la plus importante. À la période médiévale, on a des sous-vêtements qui sont assez simples. Pour l'homme, on a une chemise, alors pas du tout la chemise qu'on connaît actuelle avec des boutons, mais une forme de tunique en T, mais qui va être quand même avec des aménagements de confort, c'est-à-dire il faut donner de l'amplitude à la jupe. Je rappelle qu'au XIIIe siècle, début du XIVe siècle, les hommes portaient des robes. Donc une amplitude qui va être faite avec une quille triangulaire insérée au niveau d'une fente au milieu de la jupe, à l'avant, à l'arrière. Donc on a de l'amplitude pour les jambes, et on a aussi de l'amplitude pour bouger les bras, parce que pour pas faire des chemises très larges qui va engoncer la personne sous le vêtement, on va utiliser des techniques de couture, notamment des goussets, des petits losanges insérés sous les bras, qui vont donner l'aisance tout en ayant beaucoup moins d'étoffe au niveau du bras. Mais tout ça reste simple. On n'a pas encore de broderie blanche comme on peut en avoir au XVIe siècle. On n'a pas de dentelle. Donc tout reste simple. Pour la femme, on a la même chose. On a une chemise à peu près équivalente pour le sous-vêtement féminin. Les hommes vont porter des braies. Alors, c'est des sortes de caleçons plus ou moins longs, toujours faits en lin, blanc, parce que le sous-vêtement est blanc au Moyen-Âge. Et ces braies vont évoluer au cours du XIVe, le XVe siècle, pour s'adapter aux nouvelles modes, parce que l'homme va passer du vêtement robe à un vêtement deux parties, chausse pour point, et donc la chemise et le caleçon va s'adapter. On peut vraiment observer l'adaptation du caleçon dans l'iconographie en travaillant sur les Christ en croix, par exemple. Notamment allemand, on va voir le type boxer apparaître, ou le type petit slip avec une attache sur le côté. Les Christ en croix allemands sont parfaits pour une étude du sous-vêtement médiéval.
Je n'aurais jamais pensé entendre une telle phrase. J'adore.
Moi, j'aurais jamais pensé la prononcer à la radio.
Je ne vais plus jamais regarder des tableaux de la même manière dès qu'il s'agira d'une crucifixion. Non, mais l'évolution du caleçon, le Christ en boxer, etc. Mais c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, la production d'une œuvre d'art correspond bien souvent aux pratiques du moment.
Oui, parce que même si c'est une représentation biblique, souvent on va avoir quand même des aspects, certains aspects, pas tous, du vêtement contemporain qui vont transparaître. Donc c'est vrai que l'iconographie aide. Après, les sources écrites aussi sont très importantes pour connaître les dimensions, le coût de tous ces vêtements. On a aussi comme type de production les doublets pour hommes et femmes, qui sont aussi des sous-vêtements de confort pour l'hiver. Donc pareil, c'est deux toiles de lin qui enserrent une bourre de coton. Et on va en faire souvent des chemises sans manches. C'est un confort pour résister au froid l'hiver. Et puis on a tout l'aspect du linge de maison, de linge de lit, de linge de table et du linge d'hôtel aussi. On a du linge religieux et le lin est très présent aussi bien dans le vestiaire des prêtres avec les aubes que dans le linge d'hôtel.
Oui, avec AU, hôtel, oui, ici en l'occurrence. Soizic Villerbu, votre linge à vous, enfin celui qui s'exporte depuis la France, depuis la Bretagne et la Normandie, partout dans le monde. On l'a dit, ce sont peut-être des usages différents, c'est-à-dire que ça va être peut-être moins du sous-vêtement que de la toile pour faire des voiles ou des grandes pièces de ce type.
Alors les voiles sont essentiellement faites en chanvre. Hein. Les toiles de lin, en fait, elles servent essentiellement au 18e, à la grande époque de cette exportation, hein, aux chemises. Et comme le disait Nadège. Et d'ailleurs, on va adapter la production à l'usage. C'est extrêmement intéressant. Il y a des grands débats dans les années 1750-60 en Bretagne, mais qui viennent en fait d'Allemagne. Ce sont des débats allemands, en fait, et qui viennent des marchands de Cadiz. Les marchands de Cadiz, qui sont les marchands espagnols qui se chargent de l'exportation des produits allemands et français vers l'Amérique, font remonter en France l'idée que, en fait, il faut que les produits français s'adaptent et qu'ils fassent comme les Allemands, c'est-à-dire des pièces de toile qui mesurent 5 aunes, plus ou moins 5 mètres, hein, avec l'argument qu'en fait, dans Saint-Cône, on fait deux chemises pour hommes, et qu'il faut donc des pièces qui soient standardisées, dans lesquelles on puisse découper deux chemises pour hommes. Et il va y avoir un processus d'adaptation en France à ce que font déjà les Allemands, c'est-à-dire ces pièces dans lesquelles on peut faire deux chemises. Et on va passer des règlements en France pour que on fasse exactement le même type de produit, qui sert donc des toiles tout à fait standards pour faire des chemises. Et puis c'est tout, j'allais dire. Voilà, ces toiles-là servent aux chemises.
Mais déjà, c'est énorme. Hein. Non, mais ce sont des chemises avec, j'imagine, toute cette graduation de qualité des chemises recherchées parce que c'est un tressage très fin, des chemises beaucoup plus courantes. On va avoir tout ce commerce-là.
Il y a notamment des fines et des super fines. Effectivement, le tissage n'est pas le même et les prix ne sont pas les mêmes. Évidemment, hein, quand on le voit bien quand on arrive sur le marché américain, hein, les prix sont extrêmement différents en fonction de la gamme des toiles. Alors, avec parfois des complexités. Et là, moi-même, j'ai parfois des problèmes de source, hein, c'est-à-dire qu'on a des marchands qui, des fois, dans leur compte, font bien la différence entre des fines et des super fines, et puis des marchands qui qui vendent des toiles Bretagne. Et là, ou des craies du Léon, ou des Silésies, ou des toiles d'Irlande, parce que l'Irlande produit aussi beaucoup de toiles de lin, et qui ne précise jamais la qualité. Ce qui évidemment pose problème, parce qu'après c'est difficile de déterminer un usage quand on n'a pas la qualité de la toile, évidemment.
Et oui, c'est toujours la limite pour l'historienne. L'historien, c'est ce dont nous disposons comme source. Après, on peut pas inventer des choses, mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a la Bretagne, il y a la Normandie, on l'a dit, il y a un peu partout en Europe de la production de lin que l'on arrache et que l'on ne coupe pas, le lin que l'on retrouve aussi du côté des Pyrénées, dans le Pays Basque.
Oi, peyo, peyo, lo ale nauketa, dine nisa oerat. Irune saneta, gero, 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 irune saneta, gero, gero, bai. Oi, peio, peio, irundia teta, dine nisa oerat. Astalka saneta, gero, 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 astalka saneta, gero, gero, bai. Oi, peio, peio, astalka tu diateta, dine nisa oerat. Arilka saneta, gero, 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 arilka saneta, gero, gero, bai. Oi, peio, peio, josiria teta, dine nisa oerat. Argia duneta, bihar, 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 argia duneta, dinen izbihar.
Pelo, pelo, puis-je venir au lit, j'ai filé. C'est ce qui est répété dans cette chanson venue du Pays Basque avec tant de poésie parce que il y a une histoire particulière autour de cette histoire du lin. C'est une histoire qu'on pourrait qualifier de genrée de manière simple. C'est de dire que c'est une histoire très féminine. Les fileuses ont un rôle essentiel de savoir-faire dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nadège Gauffre-Fayolle, c'est ça aussi cette histoire. C'est une histoire très féminine.
C'est une histoire féminine parce qu'on a toute une littérature moralisante ou d'éducation des femmes à la fin du Moyen-Âge qui pose comme postulat que les femmes ont un lien particulier avec le textile. Et ça, on le voit particulièrement avec certains écrits de l'Antiquité qui sont repris par Boccace, notamment dans les De Mulieribus Clarisse, où il va faire des portraits de femmes. On va voir, par exemple, Arachné, qui va être censée avoir inventé le filage de la soie. Mais on le voit aussi à travers les récits chrétiens, parce qu'au XIVe, XVe siècle, va se cristalliser à la fois autour d'Ève et à la fois autour de la Vierge, des attributs. Ève va avoir comme attribut la quenouille qui sert à filer, donc c'est un grand bâton, on va pouvoir mettre les rubans prêts à filer, et on va actionner une fusaïole ou un fuseau qui va donner la rotation au fil et on va pouvoir affiner le fil et il va s'enrouler sur le fuseau. Et puis on va voir la Vierge aux travaux d'aiguille. Donc elle sera au sein du foyer, souvent avec l'enfant, le Christ près d'elle, son mari derrière elle en train de travailler à la menuiserie. Et on va la voir broder. On va la voir tisser, notamment des petits tissages sur table. On va la voir coudre, tricoter, notamment la fameuse tunique du Christ sans couture qu'elle tricote à quatre aiguilles. Et donc tout ça va passer aussi dans l'imaginaire collectif, un peu fantasmé, à cette période. Mais on a aussi, quand on s'intéresse à la production dans la vie réelle, des femmes qui vont être très présentes pour le lin, plus présentes que pour la laine. Alors, au niveau du filage, effectivement, il y a des fileuses de laine. Et au niveau du lin, on retrouve aussi ces femmes. Et elles vont être présentes aussi, plus tard, au niveau de la vente. On a énormément de vendeuses, marchandes de lin, qu'on appelle marchandes de lin ou mercières, ça dépend des endroits. Moi, j'ai été très surprise quand j'ai travaillé sur les comptabilités de la Cour de Savoie, parce que ce sont des comptabilités où on voit quasiment que des hommes. Les fournisseurs pour la soie sont des hommes, les fournisseurs pour la laine sont des hommes, les tailleurs sont des hommes. Et en fait, les seules femmes que je voyais, c'était les marchandes de toile. Donc, et dans l'iconographie, il y a très très peu de représentations de cette activité. Il y en a dans le Taquinum Sanitatis, un traité de santé du XIe siècle, un traité arabe qui est adapté pour une clientèle européenne. On a de nombreux manuscrits qui nous restent actuellement et on voit un atelier de vendeuses et de couturières en linge. Et ce sont à chaque fois des femmes. Donc c'est vraiment une activité où elles ont toute leur place et où elles doivent garder leur place aussi, parce que à la fin du Moyen-Âge et tout début du XVIe siècle, on a des hommes qui peuvent être lingés. On a aussi des hommes lingés, mais qui veulent en gros s'emparer de la direction de ces métiers. Parce que, par exemple, à Paris, Astrid Castre l'a très bien étudié, ce sont essentiellement des femmes avec une direction, des membres jurés qui sont des femmes. Et à la fin du Moyen-Âge, début 16e, certains hommes veulent rentrer dans les directions. Et elles vont se défendre sur un siècle pour garder la direction. Et les hommes qui sont délingés vont passer avec les merciers. Et on a le même phénomène à Rouen, qui a été étudié par François Rivière aussi. On voit donc ces femmes se sont battues pour garder l'autonomie, en fait, d'un métier.
Avec cette évolution, Sozy Guillerbu, vous, quand vous étudiez cette histoire du lin beaucoup plus tard, hein, 18e, 19e siècle, en fait, j'imagine que la place des hommes est beaucoup plus forte sur ce commerce.
Alors, c'est pas si évident que ça, et il peut y avoir des biais de sources. Alors, je reviens pas sur le fait qu'effectivement, les campagnes sont pleines de fileuses, de filandières, dans tous les ménages paysans, la femme file, effectivement. Mais la place des femmes dans le commerce et l'industrie, elle est souvent invisibilisées, alors que les femmes sont là, elles sont là en permanence, y compris quand on ne voit dans la source que l'homme marchand, par exemple, la plupart du temps, c'est en couple que le commerce se fait. Donc même quand la femme n'est pas dans la source, il faut imaginer qu'elle est derrière et qu'elle travaille avec son mari, en fait. Et puis de temps en temps, on voit émerger une figure de femme marchande. Mais c'est surtout à Rennes, chez les teinturiers du fil, moi, que la chose est étonnante, et je voudrais revenir là-dessus. Et ça dépend des sources. Si on regarde les archives de la corporation des teinturiers à Rennes, qui sont là, qui existent, qui sont très intéressantes, les maîtres teinturiers, ce ne sont que des hommes, parce que légalement, il ne peut y avoir que des hommes qui sont maîtres teinturiers à Rennes. Et donc, si on se fie à ça, c'est un monde masculin. Et les ouvriers sont masculins. Si on se tourne vers une autre source, c'est-à-dire les dossiers de faillite qui passent à la justice consulaire, et pour Rennes, on a des fonds extraordinaires. Il y a une vingtaine de dossiers de faillite de teinturiers à Rennes. Enfin, on se rend compte qu'une bonne partie sont des teinturières. En fait, il y a des patronnes teinturières, mais qui, effectivement, légalement, ne devraient pas être là. Donc, elles ne sont pas maîtres teinturières, mais elles sont patronnes, quand même, hein, de leur atelier, et elles embauchent. Elles font travailler des dizaines d'hommes sous leurs ordres pour travailler à ce fil. Donc on a une présence féminine, y compris industrielle, qui est là. Alors évidemment, juridiquement, c'est compliqué. Et puis même dans les dossiers de faillite, on voit de temps en temps des astuces pour dire que oui, alors bon, en fait, juridiquement, c'est pas elle qui est à la tête du truc, c'est son frère. Mais bon, en fait, concrètement, on sait que c'est elle. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses se font. Et visiblement, dans les transactions marchandes, il n'y a pas de problème. Tout le monde travaille avec ses femmes, ça fonctionne, et elles ont une autorité sur leurs ouvriers. qui fonctionnent. Les sources manquent un peu, mais j'ai quelques indicateurs qui montrent que voilà, elles sont des patronnes comme n'importe quel patron, j'allais dire.
Eh bien, filons à la rencontre d'une fileuse.
Dans le paisible village de Chambereau, près de Cussac, en Haute-Vienne, deux chats semblent captivés par un spectacle tel qu'on n'en voit plus qu'exceptionnellement en France et en Limousin, rien d'extraordinaire en vérité, mais une scène de la vie quotidienne d'autrefois qui a complètement disparu en 1971. Madame Madagar file le lin. Coutume domestique oubliée, sorte de rite étrange pour les non-initiés, Madame Madagar a appris à filer le lin en 1910, à l'âge de 14 ans, de son arrière-grand-mère, elle-même âgée aujourd'hui de 95 ans. En Limousin, le drap de lin tissé était utilisé jusqu'au début de ce siècle pour confectionner draps, torchons et chemises. Le matériel de tissage est simple, la quenouille qu'on accroche à la blouse par une attache, le fuseau et sa coche, fuseau autour duquel s'enroule le fil tissé, et l'on voit avec quelle souplesse, quelle régularité dans le mouvement, quelle précision aussi Madame Madagar s'adonne à la délicate opération. Le chanvre ne se cultive plus en Limousin, cette plante qu'on nommait en patois louchanabou et qui provenait d'une graine noire comme du poivre. Aussi est-ce seulement pour son plaisir que cette cussacoise tisse encore le lin ou parfois la laine. Et si elle est une des dernières habitantes de la région à savoir tisser, elle se souvient qu'avant la guerre, celle de 1914 bien sûr, toutes les fermières savaient encore exercer cet art.
Limousin Actualité en 1971, avec quelque chose qui est toujours charmant, mais ce geste répété depuis des siècles, avec la quenouille, et on pense tout de suite à la Belle au bois dormant, faut pas se piquer, parce que sinon on dort... Nadège Gouffre-Fayolle, faudrait peut-être pas se laisser prendre par ce piège-là du geste de la tisseuse, geste immuable depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il y a de cela, sans doute, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a des outils qui se perfectionnent.
Oui. On a des roues à filer, notamment pour la laine. Et c'est vrai, je ne sais pas si on les trouve pour le lin, mais je pense que ça doit fonctionner aussi. Donc, les premières roues à filer, ensuite des rouets. Et il va aussi y avoir un problème avec ces nouveaux outils, notamment pour la laine. Quand la roue à filer la laine est apparue, on a décidé de payer beaucoup moins les filandières parce que c'était plus simple. Et donc, leur coût à l'aunage de fil qu'elles pouvaient donner allait être beaucoup moins important. Elles ont dû à nouveau se battre pour garder des tarifs importants. Donc, la technique peut être bénéfique au niveau physique pour les ouvrières, mais finalement, au niveau économique, il y a toujours des soucis. Et on a connu, pas dans le domaine des filandières, mais notamment dans le domaine du foulonnage, des ouvriers qui ont cassé les nouvelles machines dès le Moyen-Âge, parce que il y avait ces problèmes entre le patron et les ouvriers, et le problème d'un paiement moindre, parce que, en fait, un travail physique moindre.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a toutes ces améliorations au fil du temps. On va pas développer ici, hein, mais on voit bien que le travail fait sur les textiles, c'est une énorme préoccupation parce que c'est l'économie, c'est le commerce qui est au cœur de toute cette réflexion. Soizic Villerbu, à quel moment le lin commence-t-il à être vraiment concurrencé par d'autres fibres, qu'elles soient végétales, on pense au coton, qu'elles soient animales. Il y a la laine, bien sûr, il n'y a pas que la laine, mais le lin, ça perd un peu sa place à partir de quand ?
Ça perd sa place à partir du 18e siècle. Alors pas contre la laine, parce que les usages du lin et de la laine sont très différents, mais c'est le coton qui est le principal concurrent. Alors d'autres lins que les lins français d'abord, hein, le lin irlandais, le lin allemand, parce que il y a des zones de production qui vont s'industrialiser plus vite et plus fort que certaines régions françaises, donc ils vont concurrencer le lin français. Et puis il y a le règne du coton qui va porter un coup fatal, j'allais dire, au lin français. Mais ça ne sera pas facile pourtant. Puis alors il y a l'histoire de marché aussi, c'est-à-dire que pour cet ouest français, la Bretagne qui exportait vers l'Amérique, le fait que le marché américain va s'ouvrir à d'autres produits va beaucoup lui nuire également. Mais ça n'ira pas sans résistance, hein, c'est-à-dire que il y aura quand même malgré tout au 19e siècle beaucoup de questionnements, de tentatives de relancer la filière, d'inventer des techniques technologies nouvelles, de s'industrialiser, de changer les zones de culture. Enfin, il y a et là, il faut pas du tout imaginer des sociétés paysannes, immobiles et immuables, évidemment. Hein, ça, c'est un principe qu'il faut éviter. Mais on aura, dans les premières décennies du 19e siècle, beaucoup de d'innovations technologiques, hein, dans les campagnes, pour essayer de relancer, enfin, de ne pas perdre le marché, quoi, de relancer à la production, de ne pas perdre le marché, ce qui est fondamental. Et on a beaucoup d'élites locales, notamment, qui vont, se poser la question de savoir s'il faut maintenir cette économie-là ou s'il faut la rénover ou s'il faut se reconvertir et oublier, passer à autre chose. Quoi. On a un moment extrêmement important dans ces premières décennies du 19e siècle, un peu partout, hein, un vrai tournant avec cette question qui préoccupe tout le monde et qui va remonter jusqu'à Paris, évidemment. Hein, en gros, qu'est-ce qu'on fait de la filière lin française, quoi.
Et oui, qu'est-ce qu'on en fait avec l'évocation de Philippe de Girard qui, en 1812, met en place la machine à filer le lin. Progrès, mais dans cette histoire, nous le voyons bien, et c'est ce qui nous intéresse, comment s'écrit l'histoire, c'est pour la période médiévale, Nadège Goffre-Fayolle, cette question des sources, comme toujours, les sources comptables, bien sûr, les sources archéologiques, vous nous l'avez dit, et peut-être aussi le geste, c'est de la laine là que vous portez. Enfin, moi, je m'y connais pas.
Oui,
trop.
C'est de la laine.
C'est bon.
Mais c'est pas une laine tissée, c'est une laine tricotée.
Une laine tricotée, voilà. On va s'arrêter. Non, mais est-ce qu'il y a besoin, quand on est historienne de ces sujets-là, d'aller au plus près et d'essayer de saisir comment on travaille le lin?
Alors, pour moi, c'était une nécessité. Par appétence aussi du geste et par appétence de la matière. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai tissé. Donc j'ai eu la chance d'avoir un petit métier à tisser aux ateliers nationaux d'art textile sous la direction de Chantal Tournet, qui m'a permis en fait de comprendre les armures simples de tissage qui vont être utilisées aussi bien en soie pour la laine que pour le lin. Donc ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de pouvoir lire avec toute l'acuité des textes techniques anciens, mais aussi des textes technique d'archéologue, parce que autrement c'est assez compliqué à comprendre. Et le geste aussi permet souvent d'interpréter ces sources avec beaucoup plus de justesse. Et c'est pareil quand on comprend comment on confectionne un vêtement, on sait quel textile va rendre de quelle manière. Et si c'est pas le cas, on va s'interroger. Donc la pratique pour moi a été nécessaire. Alors j'ai pas une pratique du tissage à haut niveau, mais c'est une pratique d'amatrice et j'ai une pratique aussi de la couture professionnelle cette fois-ci, parce que j'ai eu un atelier aussi de couture qui me permet de tester, de comprendre et de me poser surtout de nombreuses questions. Et il y a aussi la position. Travailler sur un métier à tisser, c'est aussi avoir une position, comprendre des positions.
Oui, c'est une histoire du corps aussi.
Hein, c'est aussi une histoire du corps.
Oui. Avec cette évocation de l'histoire du lin, Nadège Goffre-Fayolle, on retrouvera sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr les références des ouvrages auxquels vous avez consacré des études au lin, et notamment Le lin, fibre de civilisation, publié chez Actes Sud. Et puis Soazic Villerbu, Nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, parce que c'est comme ça que vous en êtes arrivé à l'histoire du lin, en regardant ses exportations. Merci vivement à toutes les deux d'être intervenues dans le cours de l'histoire. Et je vous avais promis la fin du conte d'Andersen.
Enfin !
Enfin ! Il est là.
On ne peut pas toujours être bien traité, dit le nain. Il faut souffrir pour apprendre. Ce fut dur, il est vrai. Le lin fut brisé, broyé, chanvré, peigné. Il vint sur le roué qui bourdonna. Il était impossible de suivre ses idées. J'ai été prodigieusement heureux, dit le nain dans sa souffrance. Il faut être content du bien dont on a joui. Content ? Mais oui, content ! Et il le disait encore quand il fut sur le métier à tisser. Et il devint une grande pièce de toile superbe. Tout le lin, tous les pieds sans exception, devinrent cette pièce unique. C'est superbe! Je suis ce qu'il y a de plus heureux. Je suis fort, et doux, et blanc, et long. Ça vaut bien mieux que d'être plante seulement, même si on a des fleurs. On n'est pas soigné, et l'on a de l'eau que s'il pleut. Maintenant on s'occupe de moi. La bonne me retourne tous les matins et tous les soirs je reçois la douche avec l'arrosoir. La femme du pasteur a même prononcé sur moi un discours et a dit que j'étais la plus belle pièce de la paroisse. Je ne peux pas être plus heureux.
Puis après, il faut repasser une chemise en lin. Et puis alors là, c'est la galère, quoi. Voici l'équipe du cours de l'histoire qui a préparé cette émission. Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloume, Chloé Rouillon et Maïwenn Guizou. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Ruben Kermazine. Et merci à ICI Limoges. Il y a quelques temps à peine, nous aurions dit France Bleu Limoges. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.